Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque samedi pour notre exploration de 7 jours d'actualité grâce à la richesse des reportages de la rédaction.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Un magazine que vous pouvez aussi écouter et podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Nous partirons bien sûr pour les États-Unis après les élections de mi-mandat, mais également en Iran ou bien encore au Yémen. Nous ferons aussi un point sur le sort des réfugiés congolais chassés d'Angola avec Florence Maurice, notre correspondante à Kinshasa, qui est allée à la frontière. Ce samedi, notre invité est un journaliste que vous connaissez bien si vous êtes de fidèles auditeurs. Il s'appelle Olivier Dallage, journaliste spécialiste des questions internationales. Il vient avec d'autres experts décrire l'essor du nationalisme religieux, un livre publié aux éditions Démopolis. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Nous sommes entre journalistes de la maison, mais il y a tellement de spécialistes dans cette maison qu'il suffit de s'y intéresser, de s'intéresser à leur travail. Vous venez donc de chapeauter en quelque sorte ce livre qui s'intitule « L'essor des nationalismes religieux ». Pourquoi avez-vous voulu vous intéresser à ce thème collectivement, c'est-à-dire dans le monde entier, avec des spécialistes de différentes régions du monde ?
Parce qu'en fait, quand on regarde, on se rend compte que c'est une tendance qui, depuis alors 30, 40 ans, progresse sur l'ensemble de la planète et qu'on n'a jamais véritablement étudié en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de livres ou d'articles qui sont des monographies sur un phénomène particulier dans un pays particulier, mais où il y a des articles ou des livres sur les nationalismes, sur les populismes. Mais le phénomène du nationalisme religieux, en fait, est un sujet à part entière et on l'a pas véritablement pris en compte jusqu'à présent et on ne pouvait le faire qu'en donnant des exemples pour prouver que c'est une réalité et c'est ce qu'on a fait. C'est pas tout à fait exhaustif, on couvre pas la totalité des pays qui pourraient être concernés, enfin quand même plus d'une vingtaine et ça fait un livre de 440 pages, c'est assez pour commencer.
C'est un livre copieux où on s'aperçoit que ce nationalisme, ces nationalismes religieux sont très différents les uns les autres mais se ressemblent quand même un peu. Il y a une sorte de fil directeur qui les unit.
Bien sûr, parce que les pays sont différents, l'histoire est différente. Il y a quand même beaucoup de points communs. Alors on va déjà dire ce que n'est pas le nationalisme religieux peut-être. Ça n'est pas le fait de mêler la politique à la religion, parce que ça existe depuis pratiquement toujours, depuis qu'il y a de la politique et depuis qu'il y a de la religion. C'est le fait de nourrir le nationalisme par une motivation d'ordre religieux et d'identifier la nation à une religion ou à ceux qui relèvent de cette religion. Et ça a une conséquence, c'est que on s'approprie tous ceux qui sont de cette religion pour faire partie de l'entité nationale et on en exclut tous ceux qui n'en font pas partie et qui pourtant sont peut-être nés et présents depuis des générations dans ce pays.
Alors nous allons reparler bien évidemment en prenant des exemples en nous appuyant sur l'actualité, Olivier. Mais avant de revenir sur les élections américaines de mi-mandat, parlons des relations du président américain avec la presse et pas seulement les journalistes du New York Times. Un nouvel incident s'est en effet produit mercredi, correspondance Dan Corpé.
Jim Acosta couvrait la Maison-Blanche pour CNN et était régulièrement pris à partie par le président. Mais il ne s'attendait sans doute pas à être ainsi malmené pendant une conférence de presse, un exercice qui se déroule dans une atmosphère habituellement policée. Jim Acosta a commencé par évoquer la caravane de migrants en route vers la frontière sud.
Ils sont à des centaines et des centaines de kilomètres. Ce n'est pas une invasion.
Honnêtement, vous devriez me laisser gérer le pays. Occupez-vous de CNN et si vous le faisiez bien...
Mais le journaliste tente de relancer le président et Donald Trump s'agace visiblement.
Ça suffit.
Une assistante essaye de prendre le micro des mains du journaliste, mais Pugnace, il insiste.
Sur l'enquête russe, êtes-vous inquiet ?
Je ne m'inquiète de rien au sujet de l'enquête russe parce que c'est un canular. Ça suffit, posez ce micro.
La confusion s'installe dans la salle. Donald Trump fait quelques pas avant de revenir au micro.
Je vais vous dire, CNN devrait avoir honte de vous avoir comme employé. Vous êtes terriblement grossier, vous ne devriez pas travailler pour CNN.
Un autre journaliste prend la défense de Jim Acosta, mais le président lui réplique « Je ne vous aime pas beaucoup non plus ». Il lui intime de s'asseoir et assène.
Quand vous apportez de fausses informations, ce que fait beaucoup CNN, vous êtes l'ennemi du peuple.
Les attaques du président contre la presse vont trop loin, a riposté la chaîne de télévision par communiqué. Elles sont non seulement dérangeantes, mais aussi étrangement anti-américaines. La Maison-Blanche a ensuite expliqué retirer son accréditation à Jim Acosta parce qu'il avait posé ses mains sur la stagiaire qui tentait de lui retirer le micro. Une conduite jugée inacceptable.
Alors Olivier Dallage, quel regard portez-vous sur ce nouvel incident entre Trump et des journalistes? Je précise que vous intéressez beaucoup à ces questions de presse, à l'exercice du métier. Vous êtes très investi dans ces questions-là. Alors quelle est votre réaction quand vous entendez ce genre de choses?
C'est malheureusement pas surprenant, et c'est très inquiétant. C'est-à-dire que Trump, depuis sa campagne électorale et après son élection, a désigné une grande partie de la presse, en fait l'essentiel de la presse, comme l'ennemi du peuple, et il s'en prend de manière répétée à CNN, au New York Times en particulier, et en fait, seul Fox News et quelques publications écrites allant dans le même sens trouvent grâce à ses yeux. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect évident d'intimidation, c'est-à-dire qu'en étant aussi menaçant, il espère décourager les questions difficiles. On voit que ça n'est pas le cas puisque les journalistes continuent de poser leurs questions. C'est même très impressionnant. Et je dois dire qu'en France, j'aimerais bien qu'on soit capable d'être aussi tenace quand on est face à notre président de la République. C'est pas toujours le cas. La deuxième chose, c'est que il voit que ça marche bien auprès de son électorat. Il a tenu un meeting électoral la semaine dernière ou celle d'avant, je ne me rappelle plus très bien. Et à un moment donné, il a pointé le doigt vers la tribune de presse où se trouvaient les journalistes qui couvraient le meeting, de façon à les faire siffler par le public, et ça a très bien marché. Donc ça correspond à la fois à sa façon d'être, mais c'est une stratégie politique aussi.
Alors je n'oublie pas qu'aux États-Unis, la devise, une des devises, c'est écrit sur la monnaie, c'est « In God we trust ». Est-ce que là on peut parler de nationalisme religieux aux États-Unis?
On peut en parler, d'ailleurs il y a un chapitre consacré aux États-Unis. L'Amérique est un pays qui s'est construit beaucoup de façon religieuse, y compris en fuyant les guerres de religion en Europe. Et d'ailleurs, à force d'en parler, on oublie qu'aujourd'hui, l'Amérique est de moins en moins religieuse. Néanmoins, il y a une part de l'Amérique blanche du centre, qui se sent menacée par l'autre. Et l'autre peut aussi partager en partie la même religion, le christianisme, mais le christianisme est très divisé aux États-Unis. Et donc, oui, ce qu'on appelle les évangéliques, représentent un cœur de cible assez important de l'électorat de Trump et volent à son secours. Et il leur donne des gages, par exemple par la nomination du juge à la Cour suprême, en défendant un certain nombre de positions qui n'étaient peut-être pas les siennes au départ. Mais c'est un deal.
Et pourtant, Loric Henton, dans son article, dans sa contribution concernant les États-Unis, dans votre livre, dans ce livre, parle de l'antagonie du nationalisme chrétien.
Oui, bien sûr, parce que alors que théoriquement les États-Unis sont un pays laïque, pas au sens français, mais où la religion ne doit pas interférer dans la politique, la religion est partout dans la politique américaine, et il y a des groupes, et notamment le mouvement qu'on appelle des évangéliques, qui au fil des années, depuis une vingtaine d'années, a pris une place considérable, et aucun candidat républicain d'importance, sauf dans quelques circonscriptions marginales, ne peut espérer l'emporter s'il n'a pas au moins le soutien ou la neutralité des évangéliques.
Alors restons aux États-Unis, Olivier, pour parler cette fois du résultat des élections de mi-mandat mardi dernier. Les démocrates sont donc désormais majoritaires à la Chambre des représentants et les républicains gardent le Sénat. Un État, lui, est plus que jamais démocrate. Il s'agit de la Californie. Correspondance mardi d'Éric DeSalve à San Francisco.
Au moment de glisser son bulletin dans l'urne, Vic immortalise son vote par un selfie tout sourire, un vote anti-Trump dont cet étudiant à Berkeley est très fier.
Oui, je suis fier d'avoir voté parce que la Californie est l'un des plus grands États, c'est la capitale de la diversité et de la technologie, donc notre voix sera entendue par Trump et la Californie n'est pas vraiment fan de Trump.
À San Francisco, les couloirs de la mairie transformés en bureaux de vote géants pour les midterms ont été pris d'assaut dès l'ouverture par des milliers d'électeurs. Une mobilisation aussi forte qu'inédite selon John Hans, directeur du département des élections.
Je n'ai jamais vu ça, je suis directeur depuis 16 ans et c'est la mobilisation la plus élevée que j'ai vue pour des élections de mi-mandat. Je pense que c'est la plus forte participation qu'ait connue San Francisco.
Peu de doutes sur l'issue du scrutin en Californie, bastion démocrate, fief de la résistance à Washington ici. Beaucoup comme Alex, institutrice, veulent faire de ces élections de mi-mandat un référendum anti-Trump.
Oui, ce qui se passe en ce moment n'est pas humain. Il y a beaucoup de haine et si la Californie pouvait aider à arranger cela, ce serait génial.
La Californie, terre démocrate par excellence, à tel point que certaines grandes figures comme la sénatrice historique Dianne Feinstein n'ont quasiment pas fait campagne tant elles sont assurées de leur réélection.
Alors revenons, Olivier, aux résultats dans l'ensemble de la fédération, cette fois dans l'ensemble des États-Unis, et retrouvons Anne Corpé à Washington.
Nous allons travailler ensemble pour renforcer l'Amérique. Nous en avons tous assez des divisions, a assuré Nancy Pelosi, la chef de la nouvelle majorité à la Chambre, avant de citer ses priorités. La protection de l'assurance maladie et les infrastructures. Des domaines sur lesquels une coopération est possible avec la Maison Blanche. Mais les démocrates vont vouloir aussi montrer les dents, surtout que de jeunes élus situés à la gauche du parti arrivent à la Chambre. Le parti va prendre la tête des commissions parlementaires qui ont un pouvoir d'enquête étendu. Les démocrates pourront tenter d'obtenir la déclaration fiscale que le président a toujours refusé de fournir, enquêter sur les conflits d'intérêts de la famille Trump, élargir le champ d'investigation du procureur Mueller, bref, mener une sorte de guérilla parlementaire. Avec leur victoire à la Chambre, les démocrates imposent un contre-pouvoir à Donald Trump, mais en conservant le Sénat, le président garde lui la possibilité de faire nommer sans encombre des juges fédéraux et même des juges à la Cour suprême. Il pourra aussi continuer à gouverner par décret sans se soucier de chercher un consensus au Congrès.
Alors l'actualité américaine, Olivier Dallache, est aussi le limogeage de Jeff Sessions, qui était le ministre de la Justice aux États-Unis. Et donc il y a des risques aujourd'hui de menaces sur l'enquête de Robert Mueller avec son successeur potentiel qui doit être investi par le Sénat. Ça vous inspire un commentaire, ce résultat électoral et cette démission aussi, cette pression en quelque sorte?
Bon, on voit bien en tout cas que, en dépit des premiers mots qu'il a prononcés, Donald Trump n'est pas dans un état d'esprit de conciliation. Au contraire, il veut maintenant, il estime avoir les mains libres pour faire ce qu'il s'est interdit de faire juste avant les élections. Et déjà, il s'interdisait pas grand chose avant. Mais la nouveauté, en effet, c'est qu'il ne contrôle plus les deux chambres du Congrès. Et même s'il a renforcé ses positions au Sénat, ce qui est très important, la Chambre des représentants est aux mains des démocrates. Et donc, un certain nombre de choses vont devenir impossibles, voire dans certains cas très difficile pour Donald Trump. Oui, il a renforcé sa base en étant aussi agressif, et c'est ce qu'elle attendait, mais il a aussi mobilisé les adversaires, ceux qui se sentent menacés, et ça explique le succès des démocrates à la Chambre. En fait, rien n'est joué pour dans 2 ans. Il se peut que Donald Trump soit réélu, ou il se peut qu'il soit battu, les jeux sont entièrement ouverts, et c'est le résultat de ces élections.
Alors ce qui est frappant en lisant votre livre, notamment, enfin ce livre collectif, Olivier Dallache, que vous avez dirigé, c'est la place qu'occupe la religion désormais dans la politique, mais ce qui ne veut pas dire à chaque fois qu'il y a un nationalisme religieux. Il peut très bien y avoir une place importante de la religion dans les débats politiques sans qu'il y ait par ailleurs un nationalisme.
Mais bien entendu, je vais prendre 2 exemples bien connus, enfin la démocratie chrétienne en Italie ou en Allemagne, ce sont des partis chrétiens qui se revendiquent du christianisme dans des pays où il n'y a pas de laïcité d'État comme ça peut être le cas en France ou ailleurs, mais ce ne sont pas des partis nationalistes, au contraire, ils se sont beaucoup investis dans la construction européenne qui est rejetée par pratiquement tous les partis nationalistes, qu'ils soient religieux ou pas. Donc la religion, ça peut procéder de convictions profondes ou ça peut être un expédient politique de gens qui ne sont pas très convaincus. Vous savez, c'est frappant de voir que certains de ces mouvements nationalistes religieux ont été portés par des gens qui étaient, dans le meilleur des cas, de leur point de vue, agnostiques et dans certains cas franchement athées. Mais en revanche, c'est un combat culturel et la religion intervient là en tant que culture au service de la politique. En France, Charles Maurras, par exemple, le fondateur de l'Action française, demander à l'Église de jouer un rôle très important dans la société. On se pose encore la question aujourd'hui, savoir s'il était croyant ou athée. En tout cas, il n'était pas quelqu'un de très religieux. Mais pour lui, l'Église était le garant de la stabilité de la société, donc c'était important. Et ben, on voit la même chose dans beaucoup de pays. Et la religion correspondant à quelque chose de très profond dans la population, ben, c'est utilisé au service du nationalisme.
Et il y a aussi le chef d'État, on l'a vu récemment au Brésil, qui utilise la religion pour parvenir au pouvoir, en étant prêt même à inclure le poids de cette religion dans leur programme et dans leurs décisions à venir.
Alors le cas du Brésil,
qui est traité d'ailleurs
dans lieu à un chapitre, et Jair Bolsonaro, enfin le chapitre a été écrit avant l'élection, mais il est tout à fait en phase avec ce qui s'est passé. Le slogan de campagne de Jair Bolsonaro, c'était le Brésil au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous, à moins que ce soit le contraire. Enfin, on voit bien qu'il y a une association des deux. Et en effet, lui aussi, Bolsonaro, a été porté par les milieux évangéliques et lui-même s'est converti à ce christianisme évangélique il y a quelques années.
Une semaine d'actualité.
Et partons pour l'Iran maintenant, Olivier Dallage. Je n'ai pas choisi ce pays par hasard. Après le renforcement des sanctions américaines au début de la semaine, mais l'Iran a joué un rôle important aussi dans l'essor de ces nationalismes religieux. Donc, correspondance à Téhéran lundi, Tiavosh Ghazi.
L'économie iranienne est déjà durement touchée par les premières sanctions américaines qui ont fait chuter la valeur de la monnaie du pays. Un dollar américain valait près de 40 000 rials en début d'année. Il vaut aujourd'hui environ 4 fois plus, ce qui a eu un effet direct sur les prix des produits de première consommation, comme l'explique Farah Mars, un jeune peintre en bâtiment qui craint une aggravation de la situation avec les nouvelles sanctions américaines.
Durant cette période, les choses ont beaucoup changé. Les prix ont été multipliés par 2 ou 3. Les gens touchent le même salaire qu'avant, mais tout a augmenté par 3 ou 4. C'est difficile. Si on gère correctement les affaires, cela n'aura pas beaucoup d'effet. Mais si on continue comme ça, ce sera beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui.
La principale crainte des Iraniens est un arrêt total des exportations de pétrole, ce qui réduira considérablement les moyens financiers du gouvernement. L'objectif des États-Unis est en effet de réduire à zéro ses exportations et les rentrées pétrolières de l'Iran, qui représentent une grande partie des revenus du gouvernement. Si les exportations pétrolières ont baissé, Washington est loin d'avoir atteint ses objectifs et a été obligé d'accorder des dérogations à 8 pays clients du pétrole de l'Iran.
Sachez aussi cette semaine que des forces pro-gouvernementales yéménites ont réalisé jeudi une percée à l'intérieur même de Hodeïda, la cité portuaire contrôlée par les rebelles Houthis. Au milieu de combats meurtriers, des milliers de civils sont menacés. Écoutez ce que disait jeudi à Nicolas Falaise Frédéric Bertrand, le représentant de Médecins sans frontières à Sanaa, la capitale yéménite.
MSF, donc Médecins sans frontières, on a ouvert un projet hospitalier à Hodeïda fin septembre. Donc c'est un projet qui a pour ambition de procurer des services chirurgicaux, notamment aux blessés de guerre. Depuis le début de cette nouvelle offensive, début novembre, nous avons vu donc une intensification des combats à travers des bombardements aériens quotidiens, des tirs d'artillerie, des combats au sol. Donc au niveau de notre structure hospitalière, nous avons reçu beaucoup de blessés ces derniers jours, principalement des personnes qui ont été exposées à des éclats d'obus, qui ont reçu des balles perdues. Aujourd'hui, on est dans une situation où la coalition et les troupes au sol du gouvernement de Hadi essayent d'encercler la ville. Donc là, nous sommes dans une situation quasiment de siège, ou en tout cas, c'est ce qu'il semble être l'objectif. Ce que l'on voit, nous, au quotidien, c'est effectivement des blessés qui nous arrivent à l'hôpital, des populations qui restent enfermées, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir, soit parce qu'elles craignent pour leur vie, et vraiment des populations prises entre deux feux.
À suivre, bien sûr, dans nos journaux. Direction le Pakistan, Olivier Dallage. La jeune femme chrétienne Nazia Habibi a quitté il y a une semaine au Pakistan, donc dans le pays, après avoir passé 8 ans en prison, a été libérée, puis emmenée sous haute protection. Muriel Paradon.
Son sort a ému et mobilisé la communauté internationale. Asia Bibi, une ouvrière agricole, chrétienne, est condamnée à mort en 2010, accusée de blasphème après une dispute avec des villageoises musulmanes pour un simple verre d'eau. Elle passe 8 ans dans les couloirs de la mort au Pakistan avant d'être acquittée la semaine dernière par la Cour suprême. Mais des islamistes protestent et réclament son exécution. Ils bloquent les principaux axes du pays durant 3 jours, forçant le gouvernement à négocier. Celui-ci promet qu'Asia Bibi ne quittera pas le territoire et pourra être éventuellement rejugé. Cet accord très controversé divise les Pakistanais. Le mari d'Asia Bibi a en tout cas lancé un appel à l'aide, craignant pour la vie de sa femme et sa famille. Il a réclamé l'asile auprès de plusieurs pays, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada. La France s'est dite prête à accueillir Asia Bibi si tel était son souhait.
Alors j'ai choisi l'Iran d'abord parce qu'il s'est passé encore quelques événements importants au début de la semaine avec ce renforcement de l'embargo américain, Olivier Dallage, mais aussi parce que on peut en quelque sorte marquer le début de cette montée du nationalisme religieux à la révolution. On peut dater cette montée à 1979, cette révolution iranienne des religieux.
C'est ce qui nous semble, c'est-à-dire que le mouvement des nationalismes religieux est évidemment antérieur, mais la révolution islamique iranienne de 1978 qui a abouti à l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini au début 79, oui, c'est le premier signe visible de cette progression des nationalismes religieux, mais à l'époque on l'a pas vu véritablement comme ça. On voit bien que c'est une révolution chiite, mais avec des spécificités iraniennes, volonté d'exportation de la révolution, ça reste un objet d'étude proprement iranien, si vous voulez. C'est simplement quand on agglomère l'ensemble des mouvements qui ont suivi ailleurs dans le monde qu'on se dit, tiens, bah, en fait, il y a une convergence, c'est pas du tout mathématique ce que je veux dire, mais une convergence de mouvements parallèles, c'est même impossible,
ouais, c'est bon.
Qui vont dans le même sens, c'est-à-dire, oui, portés par une religion qui légitime une politique et vice-versa.
Clément Terme qui signe l'article, enfin la contribution sur l'Iran, parle d'islamo-nationalisme.
Oui, c'est d'ailleurs quelque chose qui peut s'appliquer à d'autres pays mais, de la région, mais c'est certainement l'Iran qui, de ce point de vue-là, était précurseur. Quoique, le Pakistan, puisqu'on évoquait également le Pakistan, est finalement le premier exemple de l'histoire, me semble-t-il, d'un État qui a été créé au nom de la religion. Il a été créé en même temps, la même année qu'Israël, mais Israël, c'était l'État des Juifs, c'était pas l'État du judaïsme. Alors que le Pakistan, c'est une idée, et qui a été créé sur cette idée. Même si beaucoup d'observateurs estiment, à mon avis à juste titre, que le Pakistan d'aujourd'hui n'a qu'un très lointain rapport avec ce que voulait faire Mohamed Ali Jinnah et ceux qui ont inventé l'idée du Pakistan.
Et Jean-Luc Racine, qui lui signe cette partie de votre livre consacrée à ce pays, nous rappelle que la population du Pakistan est à 96% musulmane et que le Pakistan est le deuxième pays musulman après l'Indonésie.
Oui, il faut savoir que l'Inde sera probablement le premier pays musulman dans quelques dizaines d'années, ce qui va pas de soi dans la tête, alors que le Pakistan, tout le monde comprend bien que c'est un pays musulman. Mais voyez-vous, 96%, c'est énorme. Or, c'est une chose qu'on va trouver dans tous les mouvements nationalistes religieux. Ce sont des mouvements qui incarnent le groupe majoritaire qui se sent menacé par des minorités. Et comment voulez-vous que 96% de musulmans au Pakistan puissent se sentir menacés par une chrétienne qui va boire dans un puits où elle n'est pas censée boire et que ça mérite la peine de mort? Très franchement, c'est plus une attitude d'ordre tribal que religieuse, parce que on ne retrouverait nulle part dans les textes sacrés musulmans quelque chose justifiant la chose. Mais la pratique au Pakistan, qui s'est développée notamment après le coup d'État du général Zia-ul Haq en 77, est allée dans ce sens de manière continue, et le gouvernement civil ne peut pas grand-chose contre ça.
Alors parlons d'un pays que vous connaissez bien, l'Inde, Olivier Dallage. Vous signez d'ailleurs une contribution sur ce pays, et vous nous rappelez que, et là je vous cite, que le nationalisme hindou est aux commandes de la plus grande démocratie du monde, avec les guillemets qui s'imposent.
C'est la plus grande démocratie du monde par la population, par l'histoire, par les institutions, mais c'est une démocratie très imparfaite, où le groupe majoritaire, en l'occurrence cette fois les hindous qui représentent 80% de la population, ceux d'entre eux qui se revendiquent du nationalisme religieux, estiment que les autres, c'est-à-dire les chrétiens et surtout les musulmans qui représentent à peu près 14% de la population, ne peuvent vivre en Inde qu'à condition qu'ils se soumettent à la culture hindoue. Et ce qui est frappant, c'est que ce pays qui est né en 47 aussi, lors de la partition, avec des institutions laïques, puisque la constitution indienne est une constitution laïque, est en train de dériver vers ce que certains appellent un Pakistan hindou. Et heureusement qu'il existe des institutions fortes, je pense à la Cour suprême, qui tempère ces excès, mais la tendance est quand même, de ce point de vue, assez préoccupante.
7 jours dans le monde.
Et arrêtons-nous en France maintenant, Olivier Dallage. Toute la semaine, le président Macron a parcouru le nord et l'est du pays. C'est, pour reprendre le terme officiel, une itinérance mémorielle qui a commencé dimanche soir à Strasbourg et s'achèvera demain dimanche 11 novembre. Vous avez pu suivre ce périple à la fois historique et politique entre l'hommage aux combattants de 14-18 et le prix du diesel. Le président s'est notamment rendu aux Éparges, un des hauts lieux des combats de la Grande Guerre. Reportage de Pierre-Olivier.
Aujourd'hui, une forêt recouvre les collines des Éparges perdues dans la brume. Mais il y a 100 ans, le terrain était lunaire. Et pourtant, il fallait à tout prix que les Français reprennent ce point culminant et stratégique sur la vallée, la crête des Éparges.
La crête des Éparges, c'est comme un château fort. Ceux qui l'occupent, ce sont les Allemands. Et ceux qui vont essayer de prendre d'assaut cette forteresse, eh bien, ce sont les Français.
Patricia Pierson est la présidente de l'association du souvenir L'Esparge.
Vous montez à l'assaut d'une forteresse, comment faites-vous quand vous êtes à pied? Il n'y a pas d'avion à l'époque, il n'y a pas de missiles, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a rien. Les Allemands ont installé des pièces, eux, d'artillerie, de mitrailleuses. Impossible de déloger les Allemands du bout de cette crête.
10 000 soldats français perdront la vie en tentant de prendre cette colline, mais en vain. Parmi les survivants, l'écrivain Maurice Genevoix, alors sous-lieutenant. Il racontera dans son livre « Ceux de 14, l'atrocité des combats », Julien Genevoix et son petit-fils.
Maurice Genevoix ne remplacera jamais le soldat inconnu, mais Maurice Genevoix, c'est le témoin. C'est celui qui a raconté, et c'est très important de raconter, parce que si personne ne raconte, dans une langue qui marque, on finit par oublier.
Au cœur du village se dresse un buste de Maurice Genevoix, devant lequel Emmanuel Macron se recueillera. À son pied, on peut lire « Ce que nous avons fait, c'est plus que l'on pouvait demander à des hommes, et nous l'avons fait ».
Maurice Genevoix entrera au Panthéon l'année prochaine avec ceux de 14, en quelque sorte, pour reprendre le titre d'un de ses livres. L'écrivain qui fut aussi, il faut le rappeler, un conteur des bords de Loire et de la Sologne. Ce voyage a aussi été l'occasion pour Emmanuel Macron de rendre hommage aux combattants africains à Reims. Michel Arsenault.
Le monument domine une clairière du parc de Champagne, un jardin de la ville de Reims. Il représente 4 soldats africains et un officier français de la Première Guerre mondiale. Ce bronze des années 1920, œuvre du sculpteur Paul Moreau-Vautier, était au départ un témoignage de reconnaissance à l'armée noire, comme on disait à l'époque. Une reconnaissance bien éphémère, puisque 20 ans plus tard, en pleine Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie s'est empressée de détruire ce monument qui représentait tout ce qu'elle abhorrait. Ce n'est qu'en 2013 qu'une copie de l'œuvre originale sera réalisée et installée dans le parc de Champagne. En l'inaugurant aujourd'hui, les présidents Macron et Keïta soulignent des liens historiques entre la France et le Mali. La majorité des tirailleurs, dits sénégalais, étaient en réalité originaires du Mali actuel.
Et à ce sujet, je vous recommande le numéro de La Marche du Monde de Valérie Nivelon tout à l'heure sur notre antenne. Un numéro consacré à Blaise Diagne et aux combattants africains de la Première Guerre mondiale. Cette itinérance mémorielle donc a aussi été marquée par une de ces polémiques qui rythment quotidiennement l'actualité française. Polémique cette fois au sujet de l'hommage rendu à Pétain, le Pétain de l'époque, commandant en chef des troupes françaises à la fin de cette guerre, et pas le Pétain initiateur, héros. AUT, de la collaboration avec l'Allemagne nazie sous l'occupation en 40. Écoutons Emmanuel Macron.
Sur ce sujet, je vais être très clair. On connaît le rôle que Pétain a eu pendant la Première Guerre mondiale en tant que maréchal. On connaît ensuite son rôle dans l'histoire. La vie politique française et les historiens l'ont jugé. Mais je considère qu'il est tout à fait légitime que nous rendions hommage aux maréchaux qui ont conduit aussi l'armée à la victoire. Et que cet hommage soit rendu, comme il l'est d'ailleurs chaque année, par l'armée française. Mon chef d'état-major particulier sera présent à cette cérémonie. Et je ne fais aucun raccourci, mais je n'occulte aucune page de l'histoire. Et le maréchal Pétain a été, pendant la Première Guerre mondiale, aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un grand soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième.
Et je vous invite à écouter demain notre magazine Idées consacré à l'armistice de 1918 au musée Clémenceau à Paris, musée qui fut l'appartement du Tigre jusqu'à sa mort en 1929. Demain dimanche donc à 16h10 temps universel, 17h10 à Paris, et j'ajoute que cette émission s'inscrira dans une journée spéciale que vous propose la radio sous la direction notamment d'Olivier Dallage qui est notre invité cette semaine dans l'émission. Olivier, vous voulez dire un mot sur cette polémique ou sur cette séquence mémorielle du président cette semaine?
Je pense que le président de la République a cru qu'il était dans son rôle en disant l'histoire pour pacifier la France et réunir tout le monde.
Comme l'ont fait ses prédécesseurs, du reste.
Absolument. Hein, ouais. Et d'ailleurs, si les commémorations étaient comptées dans le PIB, la France serait certainement en tête de la production mondiale. Ouais. Mais il a commis l'erreur de sous-estimer la sensibilité de beaucoup de Français à ce qu'a représenté le Pétain de la collaboration. Et précisément, les attendus du tribunal qui ont condamné Pétain à mort et à la dégradation, à l'indignité nationale, c'était de souligner que ces faits d'armes de la Première Guerre mondiale étaient des circonstances aggravantes, parce que en tant que héros de Verdun, même s'il n'est pas le seul, eh bien, il ne devait pas prêter son prestige à la collaboration avec l'Allemagne nazie. Et c'est un tout. On ne pouvait pas distinguer le Pétain de la Première Guerre, qui était bon, du Pétain de la Seconde Guerre, qui était mauvais, et faire son marché là-dedans. Et ça, je crois qu'il s'est rendu compte tardivement, mais il a dû s'en rendre compte, puisque au bout du compte, l'hommage a été retiré. Il n'y aura pas de commémoration du maréchal Pétain comme c'était initialement prévu, contrairement à ce qui a pu être raconté. Il a sous-estimé la sensibilité des Français à la chose.
Et la France figure aussi dans votre livre, donc consacré à l'essor des nationalismes religieux, avec un papier, un article, une contribution de Philippe Portier qui s'intitule « Les racines chrétiennes de la nation, parcours d'une controverse ». Ça aussi, c'est d'actualité.
Oui, et Philippe Portier était vraiment le mieux indiqué, puisqu'il dirige un laboratoire au CNRS sur religion et politique. Ça n'allait pas de soi de mettre la France dans le nationalisme religieux. Ouais. Et en fait, on y mettra deux choses peut-être. Effectivement, cette ancienne fille aînée de l'Église, et on a bien vu ces dernières années comment des mouvements de nature religieuse, je pense à Sens Commun, ont essayé de s'insinuer au centre de la politique, en tout cas à droite. Mais je dirais que une conception très intransigeante de la laïcité à gauche et au centre, mais aussi à droite, fait en quelque sorte de la laïcité une religion d'État qui est censée symboliser la nation. Et cette dimension religieuse ou para-religieuse est censée définir ce qu'est notre nation. Et donc, à ce titre-là, les deux méritaient de trouver leur place dans un livre sur le nationalisme religieux.
Alors, ce qui était extrêmement intéressant sur le plan intellectuel, Olivier Dallage, sur cette question, c'est que, vous le soulignez dans la préface, c'est que dans ces nationalismes religieux, ce nationalisme religieux, deux mots se rencontrent. Nationalisme, nation, qui est une notion nouvelle, et religion, qui est aussi vieille que le monde.
Oui, mais l'idée de nation est en fait, telle qu'on la comprend aujourd'hui, extrêmement récente, et on peut remonter à la Révolution française. Mm-hmm. Et l'idée de nation, à tour, on le sait bien, était de gauche et de droite, puisque la nation, pendant la Révolution française, on va dire que c'est de gauche, et puis incarne un nationalisme de droite, Barrès aussi, mais on retrouve la nation pendant la Résistance, donc l'idée de nation. La religion, c'est très vieux. Mais faire de la religion le socle et la raison d'être de la nation, ça, on est dans le registre du nationalisme. Et le nationalisme a ceci de particulier qu'il inclut tous ceux qui font partie de la nation, même ceux qui voudraient pas. Et il en exclut tous les autres. Et donc, par exemple, dans les années 30, les Juifs étaient exclus de la communauté nationale par une succession de lois contre eux en Allemagne, et puis après avec le statut des Juifs sous Vichy. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, par exemple, en Birmanie, où les moines qui suivent, enfin les bouddhistes qui suivent le moine Viratou, estiment que les musulmans n'ont pas leur place dans la communauté nationale birmane.
D'où la grande question, douloureuse question des Rohingyas aussi.
Ça n'est que ça. Ouais. Puisque, y compris Aung San Suu Kyi, refuse de parler de Rohingyas ou de Birmans musulmans. Ils disent que ce sont des gens qui viennent du Bangladesh. Voilà. La religion définit la nation. Et on voit la même chose avec le nationalisme hindou, etc., etc. C'est quelque chose qui s'installe dans le paysage et, à mon avis, pour assez longtemps, ce qui justifiait qu'on s'y intéresse dans un livre collectif.
Alors, avant de partir pour l'Afrique dans cette émission, Olivier, je voudrais quand même préciser que deux de nos confrères de RFI se sont mis à la tâche aussi. On parlera de Christophe Boisbouvier dans un instant, mais il y a aussi Stéphane Lagarde qui nous propose dans ce livre une contribution sur le nouveau visage de Confucius utilisé par le régime.
Alors là aussi, ça n'allait pas de soi, parce que le Parti communiste chinois a plutôt institué une sorte de athéisme d'État comme l'Union soviétique, mais en tout cas depuis Deng Xiaoping, on voit bien que la figure de Confucius qui était honnie pendant la révolution culturelle sert à modeler l'identité chinoise de toujours et de légitimer le pouvoir actuel. Et d'ailleurs, on voit bien aussi que les instituts culturels chinois dans le monde entier s'appellent les instituts Confucius. Ouais. Et donc Confucius et l'esprit confucéen est appelé au secours de l'État dirigé par le Parti communiste chinois. Donc c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais il nous est apparu que c'était aussi une forme de nationalisme religieux.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc merci pour vos messages. Je salue aujourd'hui Joseph à Lubumbashi, un bonjour à Até Adamov, Messan et Kofi, tous trois habitants de Lomé et fidèles auditeurs. Bonjour à Josué à Bamako, Roland à Yaoundé et Ernest à Douala.
Une semaine d'actualité.
Et partons cette fois pour l'Afrique, Olivier Dallage, avant de vous retrouver dans un instant. Avec d'abord une élection présidentielle, cette fois à Madagascar, on vous en parle dans nos journaux. 36 candidats s'y présentaient. Jour de vote à Antananarive, mercredi, avec Sarah Teto dans un des bureaux de la capitale.
C'est combien le pain ?
400 arrières. Ok, et les beignets de pommes de terre ?
500.
Ah, et c'est cher.
La cour de l'école primaire de Manarin Suizuch distribue 14 bureaux de vote pour presque 10 000 électeurs. Véronique y a installé sa gargote ambulante.
J'espère vraiment avoir plus de clients que d'habitude. Ça va dépendre si les électeurs achètent ou pas.
Pour ne pas perdre sa journée de travail, Véronique a voté dès l'ouverture à 6 heures.
Moi, j'ai voté pour Ange Rajoel. Pourquoi ? Parce que je veux que le coût de la vie baisse et je veux aussi du changement dans ma vie quotidienne.
Il est 11 heures. Pieds nus, enfant en guenille sur la hanche, Ephrassi entre dans le bureau de vote numéro 3.
Vous devez cocher la case du candidat sur ce bulletin et si vous ne savez pas écrire, vous plongez votre doigt dans l'encre et vous apposez votre doigt dans la case de votre choix.
Ephrassi choisira l'encre. En sortant de l'isoloir, cette mère de 5 enfants, porteuse d'eau, se confie.
Je viens de voter pour changer ma situation financière. Je gagne entre 1500 et 2000 ar, c'est-à-dire entre 40 centimes et 50 centimes par jour pour nous 7. Je n'arrive pas à payer les soins médicaux de mes enfants, ni même le loyer. Ils se couchent presque tous les soirs sans avoir mangé. J'ai de la peine pour eux. Je voudrais qu'on les aide. J'ai voté pour le pasteur Mayol. Lui, peut-être, saura nous extirper de notre vie de souffrance. C'est le seul candidat que j'aime.
À la fermeture, le taux de participation de ce bureau de vote était de 54%. Aucun incident majeur n'a été relevé.
Et on vous parle bien sûr du résultat du scrutin dans nos journaux. Partons maintenant pour la République démocratique du Congo, Olivier. L'expulsion massive de Congolais, des centaines de milliers, menée par l'Angola depuis plus d'un mois, sépare de très nombreuses familles et elle n'épargne pas non plus les enfants. Écoutez par exemple ce reportage de Florence Maurice à la frontière angolaise, dans la ville de Kamako, ce portrait d'André, un réfugié en détresse.
Allô ? Allô ?
André affiche une mine soulagée. Arrêté, tabassé, dépouillé, puis expulsé par l'armée angolaise. Il erre depuis 15 jours sans rien à Kamako. Ce matin, il a au moins pu appeler un de ses oncles à l'aide.
Je lui ai demandé de m'envoyer de l'argent pour pouvoir faire le trajet jusqu'à Kananga où se trouve ma mère. Sans ça, je suis coincé ici.
André range précieusement dans sa poche le numéro de téléphone de son oncle, un an qu'il n'avait pas pu lui parler.
Leur numéro ne passait plus depuis la guerre dans le Kassai, mais ce matin, j'ai croisé un cousin ici qui a donné leur nouveau numéro. Je suis tellement soulagé. Je pensais que toute ma famille avait été exterminée pendant le conflit et que je n'avais plus personne ici. Ils sont à Chikapa, je vais tout faire pour les rejoindre.
À ses côtés, Kasonga vient de raccrocher avec sa nièce un appel à l'aide pour lui aussi, mais il n'est pas optimiste.
Elle me dit qu'elle n'a pas les moyens de m'envoyer de l'argent. Elle aussi, elle a une vie difficile, elle ne travaille pas.
Donc elle ne pourra pas vous envoyer de l'argent ?
Non, elle ne pourra pas. Mais je n'ai personne d'autre à qui demander de quoi payer le trajet pour quitter cet endroit. Je ne sais pas ce que je vais devenir.
Un peu en retrait, Jean-Cy, lui, cherche encore le numéro de sa famille, noté sur un carnet qu'il a perdu dans la panique en quittant de force l'Angola, où il vivait depuis 12 ans.
Sur place, à Kamako, donc, l'inaction des autorités publiques et locales est condamnée par les organisations non gouvernementales, les ONG. Écoutez, par exemple, ce que Willy Lusamba, le représentant de l'Association pour la défense des droits des enfants, femmes et opprimés, a dit jeudi à Florence Maurice.
Il n'y a pas d'assistance. Pour les autorités congolaises, c'est foutu, c'est zéro. Ce n'est pas normal, puisque c'est bien eux qui devraient prendre en charge nos compatriotes qui rentrent de l'Angola. Nos confrères sont en train de dormir dehors. Il n'y a pas un centre d'accueil approprié, préparé. Ça nous donne, ça nous touche beaucoup en tant qu'activistes des droits de l'homme. C'est triste, moi, ma soeur, quand nous voyons nos confrères qui rentrent, qui passent la nuit dans des rues, dans des écoles, dans des églises. Les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Il faut que le gouvernement pense que ce sont nos confrères qui rentrent au Congo. Il faut avoir une place pour les mettre et les nourrir et les faire manger.
Le gouvernement provincial avait promis de revenir avec des vivres et de l'argent pour les aider à se déplacer.
Jusqu'alors, on ne voit absolument rien. Si vous allez en route ici, vous allez voir des gens qui sont en train de rentrer à Chikapa à pied. On est en train de les tracasser en route encore, avec des barrières là, illicites. Par les mêmes services de notre gouvernement, ça dit beaucoup.
Et la situation de ces réfugiés est suivie par Florence Maurice. Terminons pour aujourd'hui, Olivier Dallage, notre voyage au Mali, à l'ouest du pays exactement, dans la région de la localité de Banamba, où des djihadistes ont exigé et obtenu la fermeture d'une vingtaine d'écoles dispensant des cours de français. Correspondance mardi de Serge Daniel.
À moto, en turbané et armé, des jeunes qui se sont présentés comme des djihadistes fidèles au prédicateur radical Amadou Koufa entendent désormais faire régner leur loi dans plusieurs localités, notamment à Toubakoro, Dandougou, Ngonado et Balala. Nous sommes là, à moins de 200 km à l'ouest de Bamako, une première. Un témoin raconte ce qu'il a vu.
Ils venaient, ils appelaient les gens vers la mosquée, ils faisaient leur prêche et puis ils dictaient leurs conditions. Ils exigeaient la fermeture des écoles et puis la couverture de la tête des femmes avec des voiles et puis de ne pas écouter de la musique. Voici leur exigence, quoi.
Déjà, près de 2000 élèves ne peuvent plus aller à l'école où les cours sont dispensés en français dans cette zone située non loin de la frontière mauritanienne. Des enseignants menacés par de présumés djihadistes ont de leur côté pris leurs jambes au cou pour rallier Bamako ou d'autres localités. Les populations élus locaux réclament plus de présence de l'État, plus de présence de forces de sécurité pour faire face à la situation.
Suite à fin d'une semaine d'actualité en compagnie d'Olivier Dallage qui a chapeauté, dirigé un livre qui s'intitule « L'essor des nationalismes religieux » publié aux éditions Démopolis avec plein de grands spécialistes de cette question. L'Afrique est évidemment présente dans ce livre. Olivier, j'ai un message sous les yeux d'un auditeur qui s'appelle Lai Touré, il nous écoute à Dakar. Et lui pense que si les politiques, comme les politiques, dit-il, hein, c'est son avis, ont échoué, il faut peut-être donner le pouvoir religieux, parce que lui fait vraiment un lien entre nationalisme et pouvoir.
Oui, mais quand vous regardez les mouvements nationalistes religieux, la plupart d'entre eux ne sont pas du tout dirigés par des religieux. Hein, ce sont des laïcs qui estiment que la religion doit être mise au cœur du pouvoir, donc c'est quelque chose d'un petit peu différent. Bon, je ne sais pas si les religieux feraient mieux que les politiques actuelles face aux difficultés, ça c'est l'avis de chacun qui en décidera.
Alors le Christophe Boisbouvier, que nos auditeurs connaissent bien, participe aussi à ce livre, avec un article très précis sur qui concerne le Congo et un mouvement très précis qui s'appelle le mouvement Église ou Parti. D'ailleurs, il se pose la question Bundudia Congo, une union mystique des Bakongo en langue Kikongo. C'est un mouvement nationaliste religieux.
Oui, qui fait référence au royaume du Congo avec un K. Qui d'ailleurs, puisqu'on parlait de l'Angola, concernait une partie de territoire qui englobait l'actuel Congo-Brazzaville, l'actuel Congo-Kinshasa et l'Angola. Donc vous voyez, les frontières entre-temps sont venues séparer une ethnie et c'est une sorte de mouvement de réveil de cette identité, bon, qui a une influence malgré tout territorialement relativement limitée, mais qui méritait d'être pointée comme on l'a fait à travers ce chapitre écrit par Christophe.
Et il y a également un chapitre écrit par Marc-Antoine Pérouse de Monclos, lui sur le Nigeria, et sur évidemment Boko Haram.
Voilà, et un autre sur le Sud-Soudan, par Roland Marshall.
Oui, Roland Marshall, ouais.
Et ce qui est intéressant dans ces deux chapitres, c'est qu'ils montrent une même dynamique. C'est-à-dire que la croissance, la poussée de mouvements chrétiens et politiques, dans lesquels les évangéliques jouent un rôle important, avec l'appui des États-Unis d'ailleurs, c'est une réaction aux mouvements islamistes qui se sont installés dans la région. Dans les régions, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de deux pôles opposés de l'Afrique. Et donc, il y a eu cette poussée islamiste dans différents coins d'Afrique. Et des années après, on voit arriver, comme en réponse, un autre mouvement nationaliste religieux qui est d'inspiration chrétienne et, en l'occurrence, évangélique.
Alors, évangélique, il faut peut-être préciser ce qu'est ce
mouvement. Alors, ce qu'on appelle les évangéliques, ce sont des protestants qui, aux États-Unis en particulier, mais maintenant ils sont très importants
au Brésil.
Ouais. On l'a vu avec la campagne et l'élection de Jair Bolsonaro, mais également en Afrique, on voit bien la poussée des églises protestantes. J'ai dit les églises parce que il y a différentes chapelles et ce qu'on met sous le vocable évangélique en recouvre plusieurs. C'est aussi le cas au Cameroun, par exemple. Et donc, en effet, si vous ajoutez que la première dame d'Ouganda est aussi dans cette mouvance, on voit bien quand même que cette influence sur la politique est très importante en Afrique.
En tout cas, d'évidence, Olivier Nalage, il faut prendre ce phénomène au sérieux, le phénomène du nationalisme religieux. Vous écrivez dans votre conclusion, le nationalisme religieux est aujourd'hui trop répandu sur la planète, voire installé dans le paysage politique, sans doute pour longtemps, pour qu'on puisse le considérer comme un simple produit des circonstances.
Oui, donc nous avons défriché avec cet ouvrage et nous appelons d'autres à poursuivre et à élargir l'étude parce qu'en fait, c'est toute la planète d'une manière ou d'une autre qui est concernée par ce phénomène.
Un phénomène qui a donc commencé à la fin, au début des années 80.
Alors,
c'est difficile de le dater.
Sur le plan idéologique, on voit apparaître ça à la fin du 19e ou au début du 20e. Mais les mouvements demeurent assez confidentiels et c'est en effet seulement dans les 30-40 dernières années qu'on a vu ça se développer et leur succès au pouvoir ou aux portes du pouvoir.
C'est un phénomène inquiétant selon vous?
Selon moi, oui. C'est une des raisons de l'écriture de ce livre. Mais de toute manière, inquiétant ou pas inquiétant, c'est une réalité qu'on doit étudier.
Merci Olivier Dalage. Le livre que vous avez chapeauté, si je puis m'exprimer ainsi, s'intitule « L'essor des nationalismes religieux ». Il est publié aux éditions Démopolis. Je le recommande vivement car c'est un thème d'évidence, on vient de le dire, d'actualité. Merci Olivier.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées, 16h10 en Afrique, 17h10 à Paris. Ce sera une émission spéciale 11 novembre dans une journée spéciale 11 novembre sur notre antenne. Nous nous serons au musée Clémenceau à Paris qui fut l'appartement du Tigre dans la capitale et nous serons en compagnie d'historiens spécialistes de la Grande Guerre, Jean-Noël Jeannonnet, Jean-Yves Le Naour, Frédéric Rousseau, pour tout savoir sur cette page d'histoire de France, sur cette journée d'armistice très précisément. Demain donc, dimanche 11 novembre. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.